journal qui vous est présenté par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Il était un enfant de la balle, il est devenu un des acteurs les plus populaires de son temps, un archétype du dur à cuire au cœur tendre, entre autres. Disparition aujourd'hui de Claude Brasseur à 84 ans. Comment lutter contre la variante anglaise du Covid-19 sans céder à la panique? L'Union européenne et l'OMS tentent d'harmoniser les mesures mises en place par différents États, une centaine à présent, alors que la France instaurerait l'obligation d'un test pour revenir sur son territoire depuis Londres. Mais face à ce semi-blocus de l'Angleterre, la Commission européenne recommande tout de même d'éviter la rupture des chaînes d'approvisionnement pour tout le Royaume-Uni. Crise sociale, crise sanitaire, crise de confiance dans la politique et aussi dans la science. Un bilan signé Emmanuel Macron dans un long interview à l'Express. Interview fait en distanciel, bien sûr, on en parle dans ce journal. Les Arméniens dans la rue à Yerevan pour demander la démission de leur Premier ministre. L'avenir politique de Nicole Pachinian pourrait ne pas survivre à la défaite de son pays face à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Au Mali, l'armée accusée de crimes de guerre, des groupes armés soupçonnés de crimes contre l'humanité. Un rapport de l'ONU est accablant pour toutes les forces en présence dans le pays. Il est un de ceux qui nous ont appris qu'un éléphant ça trompe énormément. Le comédien et acteur Claude Brasseur est donc mort ce mardi à l'âge de 84 ans. On va revenir avec vous, Éric Chavroux, sur un homme qui aura marqué des générations. Plus de 100 films, des rôles immenses et aussi des films d'art et d'essai, des rôles pour la télévision, des séries. Son agent précise qu'il est mort paisiblement, entouré des siens, qu'il sera inhumé à Paris, au Père Lachaise, et il y reposera aux côtés de son père. Éric Chavroux, on parle d'un acteur qui a été finalement notre compagnon de route pendant 50 ans de cinéma.
Brasseur, père et fils, maison fondée en 1820. C'était le sous-titre du livre de mémoire publié par Claude Brasseur en 2014. Claude Brasseur, c'est pour beaucoup d'abord effectivement une voix, un air gouailleur, parfois un peu râleur, et un nom sur les traces d'une dynastie, après notamment sa mère Odette Joyeux et son père Pierre Brasseur, et sur les bases de l'Actor Studio, comme il le racontait à Michel Simon sur Nos Ondes en 1998.
Ça m'a beaucoup apporté, et c'est vrai, il est très important de savoir pourquoi un personnage est là, d'où il vient, quel est son milieu social, pourquoi est-ce qu'il est flic, et celui-là, pourquoi il est voyou. Et c'est amusant. Hein. Je ne dis pas que c'est nécessaire, il y a des quantités de docteurs qui ne font pas ce travail. Moi, je le fais parce que ça m'amuse. C'est une espèce de petite enquête. C'est vrai qu'il faut refaire la vie d'un personnage, il faut la refaire à l'envers.
Claude Brasseur a commencé au théâtre dans Judas de Marcel Pagnol à 18 ans, puis il passe au grand écran sous les auspices de Marcel Carné. Il sera d'une génération au croisement de réalisateurs classiques comme Jean Renoir aussi, et de la nouvelle vague avec Godard dans Bande à part qui lui vaudra l'admiration de Tarantino, puis Détective.
C'est vrai qu'il y a un avant et un après Godard. On ne joue plus la comédie tout à fait de la même façon. Involontairement, sans avoir une science particulière de la pédagogie, on apprend beaucoup de choses avec Godard, justement sur cette liberté, sur l'indispensable sensation de sentir ce qui se passe autour.
Il adore la télévision qui le rend populaire dans le téléfilm Le Mystère de la Chambre Jaune et surtout dans Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Une popularité renforcée par des rôles grand public marquants au cinéma, comme celui de Père, de Sophie Marceau dans La Boum, ou dans Un éléphant, ça trompe énormément, qui lui vaut un César de meilleur acteur dans un second rôle en 1977, sans oublier plus récemment la série des campings.
Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? On a le type sémite, on n'a pas le type antisémite, qu'est-ce que ça veut dire?
Si, justement.
Pas possible, et c'est comment?
Comme toi, avec tes petites moustaches, ta façon de parler, ta façon de marcher dans la rue, de regarder les mecs. Enfin, ça se voit quoi, t'as le type antisémite.
T'es malade, en panne, enceinte, droguée, un coup dur, tu téléphones!
Coup dur, il n'y a que ça pour vous les parents. Faites les coups durs dans la vie.
Tu t'es mis à la coulette?
Je maîtrise la consommation. Parce que je te signale que l'année dernière, on a tapé dans les 30 bouteilles en 15 jours. 25% du budget vacances, alors ça va, hein?
César du meilleur acteur en 1980 pour La Guerre des Polices, Claude Brasseur restait toutefois très attaché au théâtre, où il était devenu Vidocq, puis Fouché dans le grand succès du Souper face à Claude Riche. Dans un sourire, il pensait peut-être incarner Dieu pour son prochain rôle. Il avait transmis le flambeau à son fils Alexandre en 2007 dans la pièce de Sacha Guitry, « Mon père avait raison ».
Éric Chavroux, et vous pouvez bien sûr revoir tous les films et aussi réécouter Claude Brasseur dans plusieurs entretiens sur notre site franceculture.fr. Le Covid-19, bien sûr, grande page dans ce journal, on y revient. Les discussions se poursuivent à Matignon pour savoir quoi faire face à la nouvelle variante apparue au Royaume-Uni et que personne ne veut voir débarquer en France, bien sûr. Il est question d'autoriser les ressortissants français à revenir pour les fêtes, mais sous condition d'un test. Alors, qu'est-ce qu'on sait précisément à ce stade? Qu'est-ce qui se dit à Matignon, Stéphane Robert?
Ce vers quoi on s'oriente, de sources ministérielles, ce serait une reprise du flux de voyageurs en provenance du Royaume-Uni en direction de la France dès ce soir, entre 22h et minuit, avec pour les ressortissants français qui souhaitent rentrer l'obligation de passer un test. La France s'est battue, nous dit-on, pour qu'aucune précision ne soit indiquée quant à la nature du test exigé. Il pourrait donc être PCR ou antigénique. C'est Matignon qui est à la manœuvre dans ce dossier et qui traite directement avec les autorités britanniques. Pour ce qui concerne les centaines de camions bloqués à la frontière et les routiers à l'intérieur, là encore, un accord aurait été trouvé pour que des tests leur soient apportés et qu'ils puissent effectuer le dépistage dans leur cabine avant de reprendre la route. Cette opération concernerait deux ports d'embarquement britanniques, Douvres, évidemment, le principal port transmanche, en direction duquel 650 camions patientent actuellement en file indienne sur l'autoroute et à proximité duquel 800 autres poids lourds sont stationnés. Et puis l'autre terminal concerné est le port de Folkestone, qui se situe à une dizaine de kilomètres de Douvres, où là encore patientent de nombreux camions et chauffeurs routiers. Les modalités de cet accord étaient encore en discussion il y a quelques minutes à peine. Elles se poursuivent d'ailleurs peut-être encore. Le trafic donc pour les ressortissants français et les chauffeurs routiers bloqués à la frontière pourrait a priori reprendre dès ce soir entre 22h et minuit pour tous ceux dont les tests se révèlent négatifs. Ce sont des informations de sources ministérielles dont on attend encore la confirmation officielle par les services de Matignon.
Et qu'on va surveiller tout au long de la soirée, bien sûr. Alors partout dans le monde, la crainte monte autour de cette variante du Covid-19 présente sur le sol britannique. Les autorités fédérales américaines, quant à elles, n'ont annoncé aucune restriction pour l'heure, à l'inverse d'une centaine de pays dans le monde. Mais la ville et l'État de New York viennent, elles, de s'ajouter à la liste des pays qui mettent les vols depuis Londres et l'Angleterre sous surveillance. Le gouverneur exige désormais des tests négatifs pour les passagers en provenance du Royaume-Uni. New York, qui avait été particulièrement touché au printemps dernier par le coronavirus, a donc décidé de prendre les devants. Loïc Loury.
Une situation répréhensible, une négligence grossière. Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, dimanche dernier s'alarmait de voir des passagers non testés débarquer en provenance du Royaume-Uni. Il faut agir, disait-il, pour limiter les risques liés à cette nouvelle souche du Covid-19.
Cette souche est si inquiétante que le Royaume-Uni a de nouveau tout fermé. Boris Johnson, qui une semaine plus tôt assurait que Noël ne serait pas annulé, a pris un virage à 180 degrés. C'est sérieux, mes amis.
New York a donc ajouté son nom à une liste de 120 pays. La British Airways et Delta Airlines se sont engagés à exiger des tests négatifs au décollage, en attendant la réponse d'une troisième compagnie qui dessert la métropole américaine. Mais qu'attendent les autorités fédérales pour faire de même au niveau national, s'interroge Andrew Cuomo.
Les autorités disent qu'ils n'ont pas trouvé la strain ici.
Les autorités assurent qu'elles n'ont pas encore détecté cette souche. Mais je crois, c'est une intuition, qu'elle est déjà ici. Une fois encore, cette incompétence du gouvernement fédéral, ce n'est pas une option viable pour nous à New York.
Tout pour ne pas revivre le cauchemar du printemps dernier à New York, où le Covid avait entraîné la mort de 20 000 personnes.
Loïc Loury à New York pour France Culture. Ici en France, en tout cas, tout est prêt pour vacciner. C'est en substance ce que dit le gouvernement, alors que le ministre de la Santé était aujourd'hui en visite dans un entrepôt géant de Seine-et-Marne, une des plateformes logistiques qui va accueillir les premiers milliers de doses du vaccin Pfizer-BioNTech. La campagne de vaccination est en ordre de marche pour débuter dimanche. Manque seulement un dernier avis, l'aval de la Haute Autorité de Santé. Cet avis-là, il est attendu pour après-demain. Alors ça, c'est pour la théorie. Et dans les faits, ça semble un tout petit peu plus compliqué, Lucas Chassal.
D'un côté, il y a le calendrier avancé par le gouvernement de Jean Castex. Une première phase de vaccination en janvier qui devrait débuter dimanche. C'est ce que rappelait ce matin Olivier Véran de visite en Seine-et-Marne. Le ministre de la Santé a assisté à un exercice organisé pour tester l'acheminement des vaccins contre la Covid-19.
Nous n'attendons désormais en France plus que l'avis de la Haute Autorité de Santé. Et en fonction de l'avis de cette Haute Autorité de Santé, si elle nous dit qu'on peut y aller, alors nous commencerons dès le 27 décembre avec de premières vaccinations. Je rappelle que le public prioritaire dans les premières semaines, c'est le public des personnes âgées, en priorisant les établissements collectifs.
Et de l'autre côté, Isabelle, il y a le calendrier des agences régionales de santé qui coordonnent cette campagne de vaccination. Rien n'est encore gravé dans le marbre, nous confie hors micro la communication de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Côté hôpital, où seront généralement stockées les doses de vaccins, même discours, nous attendons les informations de l'ARS Grand Est, précise par exemple le CHU de Strasbourg. À tel point que la phase 1 de la campagne de vaccination pourrait bien être retardée. Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, estime que rien n'est encore prêt.
Il y aura symboliquement des vaccinations à la fin décembre pour montrer que l'ensemble des pays européens se lancent dans cette démarche tous ensemble. Et puis ensuite, il faudra attendre probablement la mi-janvier pour que les 11 000 établissements en France puissent être prêts pour assurer la vaccination. Et puis la vraie campagne de vaccination massive, elle se fera en janvier auprès des personnes âgées qui seront volontaires.
Les sites de production Pfizer en Belgique et de BioNTech en Allemagne approvisionneront les établissements français qui auront besoin de vaccins, des acheminements sous haute sécurité pour éviter vol ou falsification et qui se feront à des dates pour le moment encore inconnues.
Lucas Archassal, le laboratoire allemand qui fabrique le vaccin, assure en tout cas qu'en cas de mutation du virus, il serait capable de fournir un nouveau vaccin en 6 semaines. Tout en jugeant hautement probable, je cite, que le vaccin actuel soit efficace contre la variante. Emmanuel Macron se dit inquiet de la crise d'autorité qui touche à la fois la politique et la science à l'heure de la crise sanitaire. Le chef d'État, qui s'en est longuement expliqué dans un entretien pour l'Express, recueilli en visioconférence depuis la lanterne, où réside toujours à l'isolement le chef de l'État, Pierre Neveu.
Si l'on a reproché à Emmanuel Macron d'exercer une présidence jupitérienne qui s'est traduite dans la rue par des manifestations de gilets jaunes et par des conflits sociaux, le chef de l'État explique la crise de confiance par un état d'esprit, celui d'un peuple de Gaulois réfractaires dont il se revendique. Crise de confiance, alimentée par une société du commentaire et de l'émotion permanente, cela se traduit par une société qui s'horizontalise, un nivellement qui engendre l'obscurantisme et conduit au complotisme. En cette période de doute, l'État est tenu responsable de nos malheurs, constate Emmanuel Macron, mais chacun se tourne vers l'État quand l'urgence ou la gravité sont là. Illustration avec la crise sanitaire, si la France se porte mieux aujourd'hui que nos voisins européens, c'est parce que des décisions cohérentes ont été prises au bon moment. Dans cet entretien, Emmanuel Macron évoque la diversité des origines et des cultures dans cette France qu'il promettait de réconcilier en 2017. Il s'interroge, qu'est-ce qu'être français ? Il propose ainsi une meilleure intégration par l'apprentissage de la langue et de notre histoire. Mais ce récit national doit s'enrichir pour s'inscrire dans un destin collectif. La République est plurielle, dit Emmanuel Macron. Chacun doit pouvoir vivre dans plusieurs horizons culturels. On notera que le président souligne l'intuition qu'avait eue Nicolas Sarkozy lorsqu'il évoquait l'identité française. Son intuition était la bonne, explique Emmanuel Macron, mais la formule d'identité nationale était sujette à trop de polémiques.
Pierre Neveu. Plus de drones pour surveiller les manifs, c'est interdit. Le Conseil d'État l'a interdit dès aujourd'hui. Il a enjoint d'ailleurs le préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui a cessé leur utilisation absolument sans délai. Économie, alors qu'une partie de l'opinion publique s'inquiète des effets de la 5G, l'Agence nationale des fréquences tente de mesurer son impact avant le lancement commercial du réseau après Marseille, Nantes et Paris. Bordeaux est en train de s'équiper de capteurs de mesure pour surveiller l'évolution de l'exposition du public aux ondes. Dans l'attente d'un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire prévu au printemps, plusieurs maires, notamment écologistes ou de gauche, ont demandé un moratoire sur le déploiement de la 5G. Un dernier effort pour le Brexit. Le négociateur européen Michel Barnier parle d'un moment décisif pour les pourparlers entre Bruxelles et Londres après une proposition totalement inacceptable, dit-il, sur la pêche. Le Français qui se dit tout de même confiant dans une conclusion pour le 31 décembre, mais aussi prêt à négocier encore au-delà. C'est un peu un feuilleton sans fin. Nikol Pachinian est un traître. Les Arméniens ne pardonnent pas à leur premier ministre la défaite du pays face à l'Azerbaïdjan dans le conflit pour le Haut-Karabakh et la perte de plusieurs provinces. 25 000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale, Yerevan, aujourd'hui pour réclamer sa démission, alors qu'une grève générale a commencé dans le pays à l'appel de l'opposition. Bertrand Galichet.
Oui, un campement a même été installé en plein centre d'Erevan. Des manifestants furieux contre le chef du gouvernement arménien, porté au pouvoir en mai 2019, 2018 par une révolution pacifique et des grèves massives qui avaient elles-mêmes entraîné la démission de son prédécesseur. L'histoire semble donc bégayer, mais le contexte a totalement changé. Aujourd'hui, la foule veut faire payer à Nicole Pachinian la défaite humiliante de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan dans le conflit du Nagorno-Karabakh. Début décembre, le premier ministre arménien avait indiqué ne pas avoir l'intention de démissionner. Il avait ignoré l'ultimatum de l'opposition qui lui enjoignait de quitter le pouvoir. Nicole Pachinian arguant de la priorité d'organiser le retour des prisonniers de guerre et le rapatriement des corps des victimes. Près de 6000 personnes ont trouvé la mort dans les deux camps au cours de ce conflit qui a duré un mois et demi et traumatisé la population. Le chef du gouvernement arménien est un ancien journaliste, aujourd'hui âgé de 45 ans, ex-figure de l'opposition, plusieurs fois élu député. Il a longtemps incarné l'espoir de remplacer les élites post-soviétiques corrompu, mais la déroute des forces arméniennes et la perte de plusieurs territoires l'a discrédité aux yeux d'une partie de la population. Hier, des manifestants ont obligé Nicole Pachinian à mettre fin à une visite dans le sud du pays. Déplacement censé participer au deuil national de 3 jours à la mémoire des victimes de la guerre.
Bertrand Galichet. Au Mali, l'armée est désormais accusée de crimes de guerre et plusieurs groupes armés devront aussi répondre de crimes contre l'humanité. C'est la conclusion d'un rapport remis à l'ONU par des experts internationaux indépendants. Il détaille précisément 140 cas d'exactions qui ont fait en tout plusieurs milliers de victimes. Toutes les parties prenantes au conflit, dont les groupes armés signataires des accords de paix et l'armée malienne, sont donc incriminées. La Commission internationale de l'ONU préconise maintenant la création d'une cour spécialisée dans les crimes internationaux qui puisse s'en saisir. À Bamako, la correspondance de Kaoru Magassa.
Le concept de guerre propre n'existe pas et cela est particulièrement vrai au Mali selon un rapport réalisé par des experts indépendants sur la crise malienne entre 2012 et 2018. Ce rapport chronologique commence au moment où des groupes armés indépendantistes combattent l'armée régulière. L'un des faits marquants est le 24 janvier 2012. Ce jour, la ville d'Aguelog, dans l'extrême nord du pays, est prise par une coalition de groupes indépendantistes et terroristes, entraînant le massacre d'une centaine de soldats. Au fil du rapport, toujours pas rendu public, d'autres violations des droits de l'homme sont largement documentées. Massacres, meurtres, actes de torture et viols. Des abus qui constituent des crimes de guerre et qui ont été commis dans le centre et le nord du pays par toutes les parties du conflit, dont pour un grand nombre par les forces de défense et de sécurité, rappelle la commission d'experts internationaux. Dans les faits, l'armée malienne se serait rendue coupable d'assassinats et d'actes de torture en parallèle de certaines opérations, notamment à Diabali, où 16 civils ont été assassinés en septembre 2012. Les enquêtes menées par la Commission internationale sur le Mali se veulent des outils pour d'éventuels procès nationaux et internationaux.
À Bamako, Kaoru Magassa. Nouvel attentat à la voiture piégée à Kaboul. Il a fait au moins 5 morts. Depuis plusieurs mois, les violences s'intensifient dans la capitale afghane, alors que le chef du Pentagone rencontre le président afghan aujourd'hui et que les pourparlers de paix entre talibans et gouvernement se tiennent depuis le mois de septembre dernier à Doha. En Inde, le saccage il y a quelques jours d'une usine qui fabriquait des iPhones, le fait d'une centaine d'ouvriers qui accusaient l'entreprise de ne pas les avoir payés depuis des mois ou de les avoir payés seulement en partie. Après enquête, Apple vient de sanctionner son sous-traitant et a fait renvoyer un des directeurs. À New Delhi, Sébastien Farcy.
C'est l'histoire d'une croissance industrielle trop rapide. La nouvelle usine Wistron, située près de Bangalore, a multiplié par 5 en 6 mois le nombre de ses employés. Dans cet empressement, la direction n'a pas respecté les bases du droit du travail indien. Selon le rapport de l'inspection du travail, la société n'avait pas de registre d'employés ni de décompte précis de leurs heures supplémentaires. Les travailleurs n'étaient donc pas payés correctement pendant de nombreux mois, ce qui a causé leur violente révolte. Apple a placé ce sous-traitant sous observation et ne lui fournira plus de nouveaux contrats jusqu'à nouvel ordre. Ceci satisfait K.N. Umesh, secrétaire général du syndicat Situ dans cet état du Karnataka.
La réaction d'Apple montre que les ouvriers avaient des raisons de se plaindre. Mais ces plaintes deviennent violentes car dans ces usines, la direction ne laisse pas les syndicats opérer. L'autre usine de Wistron n'a pas de syndicat non plus. Nous demandons maintenant qu'Apple oblige ses sous-traitants à respecter ce droit fondamental.
Apple a commencé la production d'iPhone en Inde il y a 3 ans afin d'éviter les importants droits de douane imposés aux téléphones importés de Chine. Mais les sous-traitants, eux, souvent taïwanais, vont devoir être plus sensibles aux droits locaux de cette démocratie s'ils ne veulent pas subir de telles répercussions.
Sébastien Farcy à New Delhi pour RFI et France Culture. Une petite histoire, ce sont les pieds nickelés de Noël, deux adolescents de 14 et 16 ans qui ont tenté de voler un sapin de Noël de 2 mètres de haut, place du Capitole à Toulouse hier soir. Et en toute confiance, ils ont même essayé de s'enfuir avec par le métro. Interpellés et placés en garde à vue, ils n'ont pas révélé ce qu'ils comptaient faire du sapin. La météo, alors que deux randonneurs à ski ont été blessés aujourd'hui, dont un en urgence absolue, ça s'est passé dans les Alpes du Sud. Ils avaient été happés par une avalanche. La prudence reste d'actualité en montagne. Demain, Météo France nous promet des éclaircies au sud, mais une ambiance encore très pluvieuse au nord. La douceur persiste sur l'ensemble du pays. Demain matin, 4 à 13 degrés, maximal de 13 à 20 degrés en sud de Garonne et sur le Pays Basque.